France Inter.
Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, Verbania, le dernier assaut à la baïonnette de l'armée française. Sarajevo, mai 95. La capitale de ce qui a été la Yougoslavie est depuis 3 ans assiégée par les forces serbes du leader nationaliste Radovan Karadžić. Voilà 3 ans que le pays est éclaté entre Serbes, Croates et Bosniaques. Et voilà 3 ans qui sont déployés les casques bleus de la FORPRONU, la force de protection des Nations Unies. Le 27 mai à 4h du matin, des forces serbes s'emparent du poste d'observation qui verrouille l'accès du pont Verbania, un site stratégique du centre de Sarajevo, tenu par des casques bleus français. Le 27 mai à 7h du matin, les soldats français reçoivent l'ordre de reprendre le poste. À 8h45, l'officier qui les commande leur ordonne de fixer les baïonnettes au bout de leurs armes. À 9h10, après un assaut qui fait 2 morts côté français et 4 côté serbe, la position est reprise. Au-delà de l'action militaire, l'assaut du pont de Verbania est aussi un symbole. Celui de casque bleu français, déployé pour être une force d'interposition entre les belligérants, mais qui décide de faire cesser ce qu'il vivait comme une humiliation. En d'autres termes, c'est un acte de guerre décidé par des soldats de la paix. Notre invité aujourd'hui, Michel Goya, ex-colonel d'un régiment d'infanterie de marine, historien militaire, 2 fois déployé à Sarajevo dans les années 90, et auteur, l'an dernier chez Talendier, du livre intitulé « Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Franck Cognard, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Sarajevo, 27 mai 1995, peu après 9h. Les soldats français viennent de reprendre le poste Sierra Victor. Le bâtiment situé sur la rive droite de la rivière de Sarajevo, à l'entrée du pont de Verbania. Machinalement, certains jettent leur chargeur entamé pour en mettre un plein. Peut-être n'est-ce pas la fin, mais juste un répit. Des douilles jonchent le sol. Les casques bleus français ont tiré plus de 4000 cartouches en 25 minutes. À l'extérieur, des équipements qui traînent, arrachés aux soldats blessés pour pouvoir les soigner. Ils sont 17 à avoir été touchés, mais en vie. Et il y a 2 morts. Le blindé qui sert d'infirmerie, le Babsan, est criblé d'impact. « Mes hommes sont hagards », décrit le lieutenant Elua, dont le sang coule sur le visage. Puis, la relève arrive. Plus tard, les journalistes viennent aux nouvelles. L'envoyé spécial de France Info, Nicolas Poincaré, raconte.
Samedi, à l'aube, on leur a donné l'ordre de reprendre le poste d'observation qui contrôle le pont stratégique de Sarajevo. La difficulté, c'est que ce poste, ils l'avaient eux-mêmes construit. C'était un véritable bunker. La difficulté, c'était aussi que les Serbes qui s'y trouvaient détenaient des casques bleus français en otage. La difficulté, enfin, c'est que ce poste était surplombé par 2 immeubles, l'un tenu par des Serbes, l'autre par des Bosniaques. Tout le monde a d'ailleurs tiré. Un Français a été blessé par un tir bosniaque. Les Français ont donc donné l'assaut. Ils ont tué 4 Serbes, ils ont eu dans leur rang 2 morts et 17 blessés. Ils ont aussi fait des prisonniers.
Malgré les pertes, malgré le prix du sang, les têtes se relèvent dans les rangs militaires français. Sentiment diffus. Les soldats sont redevenus des combattants. Plus prosaïquement, l'un d'eux, monté à l'assaut de Verbania, le première classe, le marié résume. On entendait dire « les casques bleus ne font rien », mais là, on a arrêté de baisser notre culotte. Ce même sentiment traverse le 1er juin 1995 la cour d'honneur de la caserne de Vannes, celle du 3e RIMA, le 3e régiment d'infanterie de marine, auquel appartiennent les 2 morts et les 17 blessés du pont de Verbania. Des parents, des compagnons mêlent dans une même phrase la tristesse et la fierté. Jacques Chirac est là pour rendre hommage aux 37e et 38e soldats français tués en ex-Yougoslavie, le soldat Jackie Humblot, 19 ans, et le caporal Marcel Amaru, 25 ans. La reprise des ponts de Verbania, dit-il, devant les 2 cercueils, restera dans la mémoire de nos armées comme un symbole, celui de la dignité retrouvée du refus de toutes les humiliations.
La France ne tolérera plus que ses soldats soient humiliés. blessé ou tué impunément par ceux qui ont choisi de s'opposer à leur mission de paix et de protection des populations. Notre présence militaire en Bosnie est fondée sur une idée simple et forte. La sécurité de l'Europe se joue aujourd'hui dans cette région. Nous n'accepterons pas non plus le retour de la haine ethnique et de la barbarie sur le continent.
Humainement, le bilan de l'opération est lourd. Mais pour la première fois en ce 27 mai 1995, des casques bleus sont passés à l'action, refusant de subir et d'encaisser, refusant d'accepter sans broncher les lacunes de l'engagement d'AFOR PRONU, la force de protection des Nations Unies. Comme si, après 1146 jours de guerre, il était impensable qu'il y en ait un de plus qui ressemble au précédent. Bref, il fallait briser l'ordinaire, le quotidien de la guerre d'une ville assiégée depuis 3 ans. Au début du conflit, les Serbes tentent de prendre Sarajevo d'assaut avant de renoncer au bout d'un an. Alors, ils assiègent la ville et deviennent les geôliers barbares de 350 000 prisonniers. Et ainsi, chaque jour, tombent des dizaines d'obus. Chaque jour, des snipers tirent sur tout ce qui bouge. Un homme qui se rend au marché en zigzagant pour éviter les balles, ou une vieille femme qui sarcle des herbes folles pour améliorer son ordinaire. C'est ce que raconte le grand reporter Rémi Ourdan dans le documentaire Le Siège, qu'il a co-réalisé et dont voici un extrait.
Ce matin dans Sarajevo, alors que les bombes continuent de tomber, ponctuellement les plus hardis commencent à sortir des abris. Dans la vieille ville, le quartier le plus durement touché, quelques maisons flambent encore. Un pompier qui se bat depuis 23 heures hier est assis sur les marches de la bibliothèque en feu. Il regarde sa lance à eau dépitée, plus d'une goutte. Les canalisations ont peut-être sauté, les livres, la mémoire de Sarajevo partent en fumée. Vision de fin du monde ce matin dans la capitale bosniaque. Des maisons éventrées, des rues couvertes de gravats. Un vieil homme assis sur un banc dans un couloir pleure. Sa ville est en train de disparaître.
À ce moment de l'histoire, il faut revenir en arrière pour comprendre les raisons d'un conflit qui a tué 130 000 personnes en 6 ans, dont 11 000 à Sarajevo. Pour décoder les raisons de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, ce divorce sanglant entre des peuples qui vivaient ensemble au sein d'une maison commune. Jusqu'à son effondrement au début des années 90, le pays est un modèle de cohabitation ethnique et religieuse. On peut y être croate, serbe ou bosniaque, musulman ou orthodoxe, et vivre à côté l'un de l'autre, l'un avec l'autre même. La Yougoslavie est alors un mariage heureux, une fédération de 6 républiques, Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Macédoine et Monténégro, un alliage forgé par un homme, le maréchal Tito. En 1943, ce pur produit de l'international communiste regroupe derrière lui les résistants du pays contre les nazis et leurs complices croates, les Ustachi. C'est même sans l'aide de personne qu'ils s'en débarrassent, ni celle des alliés, ni celle de l'armée rouge. D'ailleurs, en 1948, Tito rompt avec l'URSS et fait de la Fédération yougoslave la première des nations non alignées. Lorsqu'il est reçu à Paris en 1977, c'est avec tous les égards et les commentateurs laudateurs comme Roger Gicquel sur TF1.
Bonsoir. Le maréchal Tito, celui que l'on a coutume de désigner comme le dernier des grands de la résistance au nazisme, l'homme qui, dans des conditions particulièrement difficiles, a su établir en Yougoslavie un socialisme en marge de l'orbite stalinienne, Tito, symbole d'un pays jaloux de son indépendance à l'égard des blocs, est arrivé en France cet après-midi pour une visite officielle de 3 jours. Le maréchal Tito, fils d'un pauvre paysan croate, 7e d'une famille de 15 enfants, est quelque chose comme un phénomène historique vivant.
Tito est né Josip Broz en 1892 en Croatie. Tito, c'est l'un de ses noms de guerre, un pseudo qu'il utilisait déjà quand il appartenait au mouvement communiste clandestin. Quand il sort en vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, il garde le nom Tito, le grade qu'il s'octroie, maréchal, et le pouvoir qui va avec. Il reste à la tête de la République fédérative socialiste de Yougoslavie durant 35 ans. Il en devient le président à vie selon la constitution qu'il a fait modifier. Mais la vie sous Tito n'est pas une carte postale. Et la Yougoslavie n'est pas un pays de cocagne. Les opposants sont toujours emprisonnés, parfois tués. Les terres agricoles collectivisées ne suffisent pas à nourrir le pays. Et l'expression culte de la personnalité semble avoir été créée pour celui qui coche toutes les cases du dictateur, ou presque. Car à l'encontre d'autres potentats, Tito n'abolit ni culture, ni religion. Au contraire, comme il le dit lui-même, la Yougoslavie a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et un seul parti. Il aurait pu ajouter « et un seul maître ». Mais les dictateurs ne sont pas éternels. Eux aussi meurent.
TF1 20h, Jean-Claude Bourret.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous venons de l'apprendre il y a très exactement 10 minutes. Le maréchal Tito est mort.
Il fallait autrefois être roi pour espérer régner aussi longtemps. Il était un fils du peuple et devint l'enfant terrible de la Révolution. Avec De Gaulle et Mao Tse-Tung, Josip Broz, alias Tito, fut l'un des 3 hommes au monde qui, de son vivant, donna son nom à une manière d'être, une façon de penser, à une philosophie politique. Comme tous les hommes qui ont marqué de leur personnalité, leur époque, leur pays et influencé le reste du monde, on est en droit de se demander ce que sera demain la Yougoslavie une fois Tito disparu.
Tito meurt en 1980, la Fédération yougoslave 10 ans plus tard. Une mort lente, une déliquescence que pressentait le général de Gaulle. Il n'y a pas de nation yougoslave, dit-il en Conseil des ministres le 1er juillet 1964. Non, il n'y a que des bouts de bois qui tiennent ensemble parce qu'ils sont liés par un bout de ficelle. Le bout de ficelle, c'est Tito. Quand il ne sera plus là, les bouts de bois se disperseront. Bien vu. Et la maladie évoluera pendant 10 ans comme autant de métastases. Pendant cette décennie qui suit la mort de Tito, les nationalismes montent. Chaque république veut son autonomie et le voisin devient ennemi. Et ce qui complique encore la situation, c'est que chaque nation sécessionniste héberge sur son sol des ressortissants d'autres pays de l'ex-fédération. Il y a des Serbes en Croatie ou en Bosnie, comme il y a des Croates en Serbie ou en Bosnie. Alors, quand en mai 92, la Bosnie-Herzégovine, capitale Sarajevo, déclare son indépendance, la minorité serbe qui y vit craint pour son existence. Et la Serbie, capitale Belgrade, s'empresse de lui porter secours. 3 hommes sont à la manœuvre. Il y a d'abord à Belgrade le politique Slobodan Milošević, 51 ans, ex-apparatchik communiste. Cet homme décrit sans charisme et piètre orateur, réussit malgré sa fadeur à fédérer derrière lui les Serbes de toute l'ex-Yougoslavie. Les ficelles de ses discours ultranationalistes, falsifiant l'histoire, sont un peu grosses, mais ça marche. Milošević, l'incendiaire. À 280 km au sud-ouest de Belgrade, en Bosnie, on trouve Radovan Karadžić. Ce psychiatre de 47 ans, formé à Sarajevo et aux États-Unis, porte le même discours que Milošević. Mais son profil est différent. Il a été jusque-là psychologue pour joueurs de foot, promoteur de médecines alternatives, détenu dans une affaire de détournement de fonds et mauvais poète à ses heures perdues. Quand la Yougoslavie se déchire, il est le président de la République serbe de Bosnie, une entité autoproclamée dont les territoires morcelés à majorité serbe entourent Sarajevo. Et enfin, parce qu'il faut bien un exécuteur des basses œuvres, il y a le général Ratko Mladić, le boucher des Balkans, c'est son surnom. Ce militaire de 50 ans, qui sera comme Milošević et Karadžić, jugé plus tard pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité, est entre autres le bourreau de Sarajevo, que ses troupes assiègent, bombardent et affament. En 92, les affrontements entre forces serbes et milices bosniaques sont encore contenus. Mais semaine après semaine, il tourne à la guerre totale. Une guerre de tribus, résume cyniquement François Mitterrand quand il se rend à Sarajevo en juin. Un voyage éclair, un coup d'état politique à vocation humanitaire, mais l'incendie est hors de contrôle. Certes, il n'y a pas de guerre propre, mais il y a sans doute des guerres plus sales que d'autres, et celle-ci en fait partie. Dès la fin d'année 92, le rapport d'une mission européenne fait la une des médias, comme ce soir à la OJT de France 2.
Les Serbes, en guerre contre les Bosniaques, violent fréquemment les femmes ou les filles de leurs ennemis. Ce qui ajoute au crime, c'est que ces viols sont prémédités, programmés en quelque sorte. Ils appellent cela la purification. Dorothée Oliéric.
Safa est sur le point de donner la vie, mais Safa déteste déjà cet enfant. Si elle le pouvait, dit-elle, elle le tuerait. sa vie a basculé au printemps dernier, le jour où un soldat serbe est entré chez elle et l'a violée toute la nuit. Le rapport, dont quelques extraits ont été diffusés aujourd'hui, est accablant. Les viols, je cite, ne sont pas des incidents périphériques à l'agression, mais sont bel et bien au service d'un objectif stratégique, celui d'humilier et de terroriser les communautés et de les chasser de leur région d'origine. Une véritable purification ethnique.
L'indignation occidentale ne change rien. En tout cas, pas le cours de cette histoire sanglante qui s'écrit à moins de 2 heures d'avion de Paris. Discours après discours, les dirigeants européens martèlent le mot paix. Résolution après résolution, les Nations Unies votent embargo anti-serbe et envoient des casques bleus. Mais rien n'y fait. La guerre est bien de retour sur le sol européen pour la première fois depuis 1945. Et le siège de Sarajevo restera comme le plus long de l'histoire, 4 ans, 3 fois plus longtemps que le siège de Stalingrad. Dans cette ville déchirée par la haine, ramener les belligérants à la paix et l'ordre de mission des casques bleus, c'est surtout une illusion. Le colonel Eric Sandal, arrivé à la mi-mai 95 à Sarajevo, s'en rend compte immédiatement. Lors de sa première inspection de Sierra Victor, le nom de code du poste du pont de Verbania, une grenade tirée depuis un immeuble voisin crible déclare le blindage de son véhicule. Bienvenue à Sarajevo.
Da je mori, more bi bahta. A šum da je mori, more bi bahta. More bi bahta, prokleto ave. More bi bahta, prokleto ave. Prokleto ave. Đurđevdan da je rano sabahile, o Đurđevdan da je rano sabahile, pala mage da je prokleto ave.
Aujourd'hui, l'assaut du pont de Verbania.
France Inter, affaires sensibles.
En cette fin mai 95, l'ONU se demande s'il n'est pas temps de retirer les casques bleus de Bosnie. Après tout, à quoi sert une force d'interposition si elle se fait canarder par les deux camps, serbes et bosniaques, si elle est incapable de se faire respecter? Après un énième ultimatum, parce qu'il faut bien tenter quelque chose, Paris, Londres et Washington ordonnent le 25 mai à des avions de l'OTAN de mener des raids contre des dépôts de munitions serbes.
Les Nations Unies avaient prévenu les Serbes, ils devaient restituer à l'ONU des armes lourdes avant aujourd'hui midi. Les Serbes ont fait la sourde oreille et en milieu d'après-midi, à la demande de l'ONU, des avions de l'OTAN ont bombardé la région de Palais. C'est la première fois depuis 6 mois. Stéphane Magnier.
Le gros nuage, c'est le seul témoignage visible que l'on possède actuellement du bombardement des forces aériennes de l'OTAN. L'impact a eu lieu il y a quelques secondes et déjà, des volutes grises s'élèvent à plusieurs centaines de mètres au-dessus des collines entourant Sarajevo. Preuve que cette fois-ci, l'OTAN ne s'est pas contenté de larguer des bombinettes. Les objectifs sont à 17 km de là, près de Palais, fief des Serbes de Bosnie. Deux dépôts de munitions qui ont été atteints.
En représailles le lendemain et en plusieurs points de Sarajevo, les Serbes encerclent et prennent en otage 375 casques bleus, dont 103 Français. La situation n'est pas nouvelle. Des soldats français l'ont déjà vécu un an avant. Mais là, les négociations ne font pas baisser la tension. Il y a des échanges de tirs. Or, les Serbes sont plus nombreux, mieux armés, plus déterminés. Certains Français veulent résister, mais finissent par déposer les armes. Je n'oublierai jamais le spectacle de ce poste où nos fusils d'assaut étaient posés à même le sol, raconte le lieutenant Derop, qui emploie le mot « capitulation ». Avant d'en énumérer les raisons, rapport de force très défavorable, position intenable, des amis qui ne peuvent pas grand-chose, aucune solution de repli, absence de soutien sanitaire. L'humiliation est terrible et certains soldats français sont au bord des larmes. Nos hommes sont exhibés comme des prises de guerre, écrit le colonel Eric Sandal dans son livre Verbania, le mandat de la rupture. Ils sont attachés à des poteaux et dépouillés de leurs uniformes. Les images de la télé serbe, reprises par les chaînes internationales, illustrent l'impuissance de la force prenue. On y voit des soldats menottés, enchaînés sous la menace de miliciens en cagoulés ou goguenards. Les Serbes les regroupent en différents endroits judicieusement choisis. Casernes, dépôts de munitions, postes de commandement. Les casques bleus français deviennent boucliers humains.
Quelques coups de feu tirés par une poignée de Serbes bosniaques et deux soldats français portant les couleurs des Nations Unies qui sortent en levant les bras et en brandissant un simple morceau de tissu, un chiffon blanc. Cette image se veut être le symbole de l'humiliation des casques bleus en Bosnie. Le commandant Indic des Serbes bosniaques réunit les soldats français en se faisant traduire par un jeune casque bleu.
À cause de la situation actuelle, vous serez considérés comme des prisonniers de guerre.
Et prema vama postupat će se podredbama međunarodnog ratnog prava.
Avec sa voix cassante, habitué à soumettre quiconque, Indic n'est pas un inconnu ici. Indic, le commandant de la caserne de Lukavica, fameux dans la région pour avoir dans le passé proche, pris en otage les volontaires de première urgence, puis les 5 pharmaciens sans frontières, là, ce sont des casques bleus français qui vont, pendant de longues journées, devoir se plier aux exigences de sa voix forte, de sa moustache et de son regard noir, de ses accents de fureur et de ses bordées d'injures renommées.
À l'Élysée, le président Jacques Chirac, nouvellement élu, entre dans une colère noire. Il ne comprend pas la réticence militaire à employer la force. Et ce qu'il apprend alors ne le rassure pas. Face aux Serbes, les Français sont moins nombreux, moins lourdement armés, et les règles d'engagement onusiennes sur le terrain ne sont pas claires. Ou trop timides. Tactiquement et militairement, l'engagement des casques bleus n'a aucun sens. Les Serbes se moquent bien de la fureur chiraquienne comme de l'attentisme militaire. À Sarajevo, ils ont ciblé leur prochain objectif. S'emparer des accès au pont de Verbania et donc du poste français qui le borde. C'est que ce pont a une importance stratégique. Celui qui le tient a en ligne de mire, à quelques centaines de mètres de là, les immeubles de la présidence et des principaux bâtiments publics. Autrement dit, un boulevard vers le cœur de la ville. Sur le papier, il faut donc pour les Serbes prendre Sierra Victor. Dans la réalité, il leur faut se rendre à l'évidence, un assaut est suicidaire. L'installation est fortifiée, comme le confirme un jeune officier de 33 ans du 3e régiment d'infanterie de marine, le capitaine Lecointre.
Construit en longueur, 65 mètres, sur la berge sud de la rivière, le dispositif comporte un poste d'observation est par lequel on accède au site. Puis une zone vie composée de 3 conteneurs, et enfin un long couloir d'une trentaine de mètres qui permet d'accéder au poste d'observation ouest. Le tout se présente de l'extérieur comme un véritable bunker de sacs de sable et de bastions. De l'intérieur comme un dédale de couloirs étroits, de recoins et de renfoncements sombres, de boyaux qui font plus penser aux tranchées de 14-18 qu'à quoi que ce soit d'autre.
Une forteresse donc, que les Serbes ne prennent pas par le combat, mais par la ruse. Dans la nuit du 26 au 27 mai, vers 4h30 du matin, les soldats du général Mladic investissent le poste sans tirer un coup de feu. Et pour cause, ils sont arrivés presque tranquillement dans des blindés occidentaux, casque bleu sur la tête et gilet pare-balles siglé ONU sur la poitrine. Les 12 soldats français qui montaient la garde cette nuit-là sont prisonniers. Sierra Victor ne répond plus. Espérant que ces hommes ne sont qu'endormis ou que la radio est en panne, le capitaine Lecointre se rend sur place. Un Serbe lui enfonce le canon de sa Kalachnikov dans le ventre. Le sergent qui accompagne le capitaine, invisible jusque-là, lui colle son arme sous la mâchoire du Serbe qui le laisse repartir, ainsi que l'autre Français. Alors Lecointre, le plus vite possible, rend compte, comme disent les militaires, il fait remonter l'information à son commandement. Les Serbes tiennent désormais le pont de Verbania. Il est 5 heures du matin. Le commandement est sous la responsabilité du général Hervé Gobillard. C'est le plus haut gradé français sur place. C'est même depuis 9 mois le plus haut gradé tout court, puisque c'est lui qui commande la force promue à Sarajevo. Les casques bleus, français ou non, sont sous ses ordres. Et il sait qu'il faut réagir immédiatement avant que les Serbes ne renforcent leur position. Il sait aussi qu'à l'Elysée, Chirac tempête depuis des jours contre l'inaction des militaires. Il sait encore qu'il n'a aucun cadre légal pour agir. Non, les soldats de la paix ne peuvent que riposter, réagir en cas de légitime défense. Or, les Serbes n'ont pas tiré un seul coup de feu pour s'emparer de la position. Il sait enfin que s'il donne son feu vert, il sera responsable d'un possible carnage.
Moi, vers 6 heures du matin, le colonel May, qui est mon chef d'état-major, me dit, les Serbes viennent de prendre, par surprise, le pont de Verbania, on est prêt à le reprendre. Et je dis, oui. Et donc, on monte cette opération de reprise du pont, sans aucune autorisation, qu'elle soit internationale ou nationale. C'est-à-dire, c'est le terrain qui reprend l'initiative. Une des raisons pour Verbania, c'est qu'en donnant le pont de Verbania aux Serbes, c'était la clé d'entrée dans la ville. Même si théoriquement nous étions en interposition, il y avait dans la ville un certain nombre de dizaines de milliers de personnes qui auraient été trucidées par les Serbes.
12 ans plus tard, dans la revue Cité, le général Gobillard revient sur cet ordre donné. « J'ai été obligé d'élargir la notion de légitime défense », dit-il. « Il n'y a pas eu un coup de feu tiré dans la prise du pont par les Serbes. Si j'avais appliqué à la lettre la notion de légitime défense, je n'aurais pas engagé d'action militaire en représailles. » À 6h45, alors que les plans de l'assaut viennent de lui être présentés, le général confirme son ordre, il faut reprendre Sierra Victor. Le capitaine Lecointre serre la main de chacun de ses hommes. Il est 8h. Puis les soldats montent dans des blindés, longent le cimetière juif de Sarajevo, puis débarquent des véhicules. Il est 8h20. Les Français entament alors leur progression silencieuse vers l'objectif. 25 minutes plus tard, ils sont au pied du pont. Par radio, on leur confirme que des blindés sont en appui, qu'ils braquent leurs canons sur prise unique et centrale, les surnoms donnés à 2 immeubles qui surplombent le poste de Verbania, où sont embusqués des tireurs serbes. Là, les marsouins, autrement dit les soldats du 3e RIMA, fixent la baïonnette au canon de leur FAMAS, leur fusil d'assaut, comme les poilus dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, ou les troupes napoléoniennes quand elles chargeaient dans la fureur des batailles où étaient engagées des dizaines de milliers d'hommes. Pourtant, en cette fin de XXe siècle, la lame qui prolonge le canon du fusil est surtout un accessoire de défilé du 14 juillet, presque un anachronisme. Jusqu'à ce 27 mai 1995, le lieutenant Helouin, l'un des premiers à mener la charge, écrit « La baïonnette au canon, c'est intellectuellement rassurant pour celui qui monte à l'assaut, et c'est terrorisant pour celui qui est en face. » Le capitaine Lecointre annonce le top départ. Il est 8h45.
C'est le premier groupe de la section qui monte à l'assaut qui immédiatement se fait clouer. Le lieutenant monte avec le deuxième groupe, franchit le découvert, et moi je suis avec ce deuxième groupe, et prend la première partie du poste. Brutalement, on se retrouve rattrapé par ce qu'il y a de plus extrême dans le combat. Le corps à corps. Ce qui est très incroyable, c'est d'abord d'avoir eu à vaincre sa peur. Ça, c'est très difficile. Une fois que sa peur est dépassé, le sentiment que plus rien ne va nous arrêter et qu'on ira quoi qu'il arrive et qu'on va se venger de cette peur qu'on nous a infligée. Le sentiment d'une sorte de jouissance à pouvoir enfin agir et avoir des gens qui tombent en face de nous. Tout ça alimenté par la souffrance qu'on éprouve de voir nos hommes tomber à côté de nous, et l'envie de les venger.
De fait, l'assaut est terrible. La section qui le mène compte 34 hommes. Le premier groupe, celui qui s'empêtre dans des barres levelées, est cloué au sol par les tirs serbes et en perd 5, blessé. Mais la progression des soldats français continue vers la zone vie du poste. Je ne pense plus à rien, ni à ma famille, ni à la peur. C'est noir devant moi, on riposte en fonçant, raconte un caporal-chef. Le marsouin Jackie Humblot grimpe sur un toit pour couvrir l'avancée. Il est cueilli par la balle d'un sniper. C'est le premier tué français. Marcel Amaru est lui aussi mortellement touché. Quelques instants plus tard, le lieutenant Éluin lance une grenade avant d'entrer dans la zone vie. Une bouteille de gaz explose, il est touché à la tête et perd brièvement conscience. Les Serbes reculent, mais à quel prix ? Des Français continuent de tomber dans le fracas des tirs et des grenades. Nous tuons deux autres Serbes, nous avançons mètre par mètre, rapporte le capitaine Lecointre. Mais compte tenu du nombre de blessés et du fait qu'il a fallu laisser des hommes pour tenir les zones reconquises, nous ne sommes plus que 5 pour investir le dernier réduit. Dehors, les chars français continuent de pilonner les immeubles d'où viennent les tirs des mitrailleuses serbes. Dedans, il ne reste plus que quelques mètres à franchir pour que le poste soit repris. Bref, un instant de répit, avant que le capitaine et les 4 hommes avec lui ne s'élancent à nouveau. Mais face à eux, ils voient 2 soldats français pris en otage dans la nuit, avec au creux des reins des Kalachnikovs des Serbes. Le combat s'arrête là. Il est 9h08, il y a 2 morts et 17 blessés sur les 34 français montés à l'assaut. Et jusqu'au soir, se joue une autre partition. Sur fond de menaces de chantage, de rapports de force, Français et Serbes échangent leurs prisonniers. Dans la nuit qui suit, les Serbes quittent définitivement les lieux. Sierra Victor est repris.
Je voudrais saluer le sang-froid, la détermination des soldats français casque bleu qui aujourd'hui défendent notre conception de la paix en Bosnie et défendent l'honneur de la France.
Plus de 90 casques bleus français qui sont retenus en otage. On a vraiment le sentiment que la France est en première ligne.
Bien sûr que la France est en première ligne, car la France n'acceptera plus l'inacceptable.
Les mots de Charles Millon, alors ministre de la Défense, au journal télévisé, sonnent bien creux avec le recul. Les Français, otages des Serbes, ne seront en effet libérés que des semaines plus tard. Voilà. Verbania aurait pu, aurait dû même, être un tournant. À la revanche des casques bleus sur l'humiliation aurait pu, aurait dû succéder une nouvelle manière d'agir pour les soldats de la paix. Mais Verbania n'a pas été ce sursaut. L'assaut sur Sierra Victor n'a pas infléchi le cours de la guerre. Moins de 2 mois après, c'est dans la ville de Srebrenica, pourtant déclarée sous contrôle de l'ONU, qu'est commis le pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. 8000 Bosniaques, comprendre musulmans dans l'esprit serbe, sont tués par les forces du général Mladic. À la fin de l'année 95, c'est la signature des accords de Dayton qui entérine la fin de la Bosnie-Herzégovine. 2 entités sont créées, l'une bosniaque, l'autre serbe. L'un des signataires est Slobodan Milošević, le président serbe. Finalement arrêté en avril 2001, il comparaît pour crime contre l'humanité devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il meurt en 2006, alors que son procès est en cours. Karadžić, lui, est arrêté en 2008, puis condamné pour génocide et crime contre l'humanité. Il purge une peine de réclusion à perpétuité. Enfin, Ratko Mladic, le général, le boucher des Balkans, est arrêté en 2011, également condamné à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité. Fin 95, après les accords de Dayton, la Fort Prenu range ses casques bleus au profit d'une nouvelle force internationale, l'IFOR. C'est l'OTAN qui remplace l'ONU et ça change le rapport de force avec les milices serbes. La posture des soldats de cette coalition est plus guerrière et les règles d'engagement sont plus claires. Le capitaine Lecointre, lui, prend du grade jusqu'à devenir en juillet 2017 chef d'état-major des armées, la plus haute autorité militaire. Mais même à ce poste-là, qu'il a quitté en juillet 2021, il n'a jamais cessé de revenir vers ce 27 mai 1995 au pont de Verbania.
ces combats ne laissent pas indemnes ceux qui y ont participé, parce qu'ils ont dû tuer. Ça, je pense que c'est le principal qu'il faut rappeler quand même. Je l'ai découvert et d'autres l'ont découvert, et mes hommes l'ont découvert, mais dans le corps à corps d'un assaut, on le découvre plus que n'importe où ailleurs. Voilà. Parce que ça renvoie à la bestialité, ça renvoie à la mort, ce sont des histoires de violence dépassées et maîtrisées ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'absolument terrible.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la prise du pont de Verbania à Sarajevo, dont nous parlons avec notre invité Michel Goya. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien colonel de l'infanterie de marine, historien militaire. Vous êtes l'auteur chez Talendier l'an dernier du livre intitulé « Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 ». Non, jour, alors 61 parce que ça part de Bizerte, hein, je vous ai demandé tout à l'heure. Ça part de la première intervention de ce type. Et vous avez été déployé deux fois à Sarajevo dans les années 90. Je vais recueillir votre témoignage sur ce point précis, mais d'abord... Ce qui court tout au long du récit, c'est la question qu'on n'a pas fini de se poser sur le sens de la mission des casques bleus. Bon sang, quel est donc ce sens? On dirait des militaires déguisés en diplomates ou diplomates avec des armes. On sent qu'il y a quelque chose. On est dans un entre-deux difficile à gérer.
Oui, bien sûr, on est des instruments de la diplomatie. En fait, vous avez bien utilisé les mots, hein. C'est-à-dire que pour situer. Alors moi, je suis parti à Sarajevo en juillet 1993. Alors pourquoi? Parce que à ce moment-là, la France avait décidé, enfin poussé à l'adoption d'une résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité pour la protection d'un certain nombre de villes, Srebrenica, Gorazde et Sarajevo et quelques autres, en disant voilà, ben l'ONU s'engage à protéger ces villes. Bon, avec le succès que l'on sait quand on reparle. On repense à Srebrenica, par exemple. Mais surtout, la France dit, voilà, ben, hop, on fait un geste, on envoie tout de suite un bataillon à Sarajevo. Bon, ok, alors le bataillon de Sarajevo, il sera formé essentiellement par le 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus. Pourquoi? Parce que, alors c'est un bon régiment, hein, y a pas de souci là-dessus, on était prêts, parce que le ministre de la Défense de l'époque, François Léotard, était aussi maire de Fréjus, donc il envoie son régiment. Donc nous, on appelle, on dit, voilà, ben, dans deux semaines, on est à Sarajevo pour 6 mois. On n'était pas d'alerte, on n'était de rien. Donc rien n'était préparé, rien n'était prévu. Donc on part comme ça, en vrac, il faut dire. Là, en plus, je fais partie du détachement avant, à l'avant-garde, si vous voulez.
Dans l'endroit le plus dangereux du monde.
Oui, oui, donc on nous envoie voilà, sans aucune préparation dans l'endroit le plus dangereux du monde à ce moment-là. Alors nous, on était, en fait, on était assez contents. Hein, on s'engage dans un régiment comme ça pour faire ce genre de choses. Mais arrivé sur place, on demande, bon, bah, quelle est notre mission, au fait? On ne sait pas. Il n'y a pas de mission. vous êtes là.
Vous êtes là, c'est ça.
Oui, oui. Donc, vous allez vous mettre en réserve, au fond, dans la vieille ville de Sarajevo. Vous allez constituer le bataillon numéro 4 français. Et voilà. Et puis, vous attendez qu'on vous donne des ordres. Et donc, nous voilà partis au fond de la ville de Sarajevo, où, dans l'heure qui suit, on a déjà perdu un homme attaqué par, pour le coup, par des miliciens bosniaques. Parce que la ville, à ce moment-là, les choses sont différentes après. Mais dans l'année 92 et surtout 93, la ville est assiégée aussi de l'intérieur par des brigades de mafieux bosniaques, dont Tsatso, un ancien guitariste, proxénète, devenu chef de guerre, qui égorge le fils du chef de la police bosniaque juste avant qu'on arrive. Et nous, on nous affecte au milieu de la zone tenue par cet individu. Et donc, dès qu'on arrive, c'est parti. Moi, je connais, voilà, ça fait 2 heures qu'on est arrivé dans la ville et on est déjà, c'est notre premier combat déjà.
Et quel est votre sentiment et le sentiment de vos hommes?
On se dit que ça va être compliqué, que ça va être très long, qu'il faudra trouver quand même rapidement du sens à ce que l'on fait ici et au risque que l'on prend. Et ce sera d'ailleurs la mission de mon chef à ce moment-là, le colonel Traki, qui arrive quelques semaines plus tard et qui dit, voilà, on n'a pas de mission, mais on va s'en donner. On va s'en donner une. Et vous allez au milieu de la population. Donc on m'affecte tout un pâté de maisons et plusieurs milliers d'habitants et on me dit, voilà, quand tu pars dans 6 mois, tout le monde doit pleurer de tristesse en te voyant partir. Donc tu te mets au milieu de la population, tu les aides comme tu peux, etc., etc. Et tu t'immerges dans cette population, tu donnes un sens. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on donnait un peu un sens à notre action, sachant qu'après, il s'est passé en réalité plein de choses, les expériences ont été multiples dans les différents mandats. Hein. Après, en gros, pour simplifier, la plus grande partie de ma mission, moi, personnellement, j'étais lieutenant, ça a été de lutter contre les snipers, c'est-à-dire de lutter contre tous les gens, bosniaques ou serbes, qui nous tiraient dessus.
Donc c'est important de dire bosniaque ou serbe, parce que dans une représentation mentale trop simple, on imagine qu'il n'y a qu'un agresseur, finalement, les serbes. Le comportement des bosniaques est aussi de ces miliciens, en tout cas, par la population civile.
Oui, bien sûr, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus ambiguës. Encore une fois, plus particulièrement cette période. Pourquoi? Parce que à la fin de l'année 93, le nouveau gouvernement bosniaque de Sarajevo décide de reprendre les choses en main. Donc vous avez des combats à l'intérieur même de la ville où le gouvernement bosniaque, met la main, réduit et élimine tous ces mafieux. Et le fameux Tsatso, notamment, qui avait égorgé le fils de chef de la police, a été pris en compte directement par le père, par le chef de la police. Et il a connu donc un sort assez funeste, ce qui n'a pas empêché qu'il soit enterré, comme avec tous les honneurs, d'un héros, un héros de la guerre. Donc tout était en réalité très ambigu, tout était assez complexe. La plupart des gens qui ont été touchés, qui ont été tués ou blessés à l'époque où, en 93, l'ont été par des bosniaques en réalité à l'intérieur de la ville.
Ouais. Et vous, le plus grand danger pour vos troupes, c'était d'être victime d'un tir de sniper? C'était ça? Quand vous sortiez dans la rue, ouais, c'était quoi l'état d'esprit, quoi?
Alors, faut bien comprendre l'ambiance. Oui, on est dans quelque chose qui est là aussi, qui est complètement surréaliste. Vous imaginez une ville vide, parce qu'évidemment, il n'y a personne qui circule, il y a quelques voitures, donc vide et silencieuse. Et puis, le seul bruit que vous entendez, ce sont des obus. Ils tombaient en moyenne 250 obus par jour.
Depuis les collines de Palais,
tout autour de la ville, sur la ville, 250 obus. Quand ils tombaient moins de 250 obus, on marquait sur les comptes rendus, on marquait rien n'est signalé. Journée calme.
C'est terrible.
Et voilà. Et puis vous aviez aussi les snipers, donc c'est des tueurs qui étaient tout autour de la ville et dont le but premier était de tuer le maximum d'êtres vivants dans la ville, parce qu'ils tuaient même les animaux. Et en grande partie, à partir de l'endroit, le pont de Verbania se trouve à côté d'un quartier qui était tenu par les Serbes, le quartier de Gorbavica, et c'était de ces bâtiments que sévissaient la plupart de ces snipers, et notamment sur une longue avenue qui était baptisée Sniper Alley, et sur laquelle, chaque fois qu'on franchissait, ben, on prenait des obus. Ça m'arrivait de passer, d'avoir un obus qui tombe juste derrière moi, ou de se faire tirer dessus, ce qui arrivait assez régulièrement.
Et pour un soldat, ça va être difficile à vivre que de ne pas faire la guerre selon les codes de la guerre, armée contre armée. Là, vous êtes une armée au centre d'un chaos dans lequel il y a des miliciens, des civils. Oui. Est-ce qu'en tant que militaire, vous posez la question du sens de votre métier, de votre mission à ce moment-là ?
Bien sûr. On se demande à quoi ça sert, et à quoi ça sert de prendre des risques, faire prendre des risques à nos soldats pour des choses qui sont sans utilité, voire qui apparaissent absurdes. Je donne juste un exemple. Oui. L'aéroport de Sarajevo se trouve complètement à l'ouest de la ville, mais il touche la ville. Vous l'avez évoqué, François Mitterrand avait fait un voyage, avait atterri sur cet aéroport, avait obtenu que cet aéroport serve de base, soit tenu par les forces des Nations Unies, et servent de cordon ombilical avec l'aide alimentaire, mais à une condition. Les Serbes avaient accepté ça, à une condition: vous empêchez les habitants de fuir. Et donc, une des missions des soldats français, puisqu'il y avait un bataillon français sur cet aéroport, consistait, le soir, on appelait ça le crossing, à empêcher les habitants de fuir. Donc, des gens qui arrivaient, qui essayaient de sortir de la ville assiégée.
De l'enfer,
oui, exactement. Et des Français qui leur disaient, non, vous restez là. Ouais. Et la deuxième partie de la mission, c'était d'aller récupérer les cadavres de ceux qui avaient essayé quand même de franchir et qui se retrouvaient dans le champ de tir des snipers, et les retirer sur de la piste d'aviation avant que les avions n'arrivent. Donc voilà le genre de situation dans laquelle on se retrouvait concrètement. À l'encontre également de tous les principes militaires, de tout ce qu'on a appris, en fait.
Une expérience douloureuse ? On peut vous la qualifieriez comme ça, vous qui l'avez vécu ?
Oui, douloureuse pour beaucoup, mais en même temps, finalement, assez exaltante, quoi. Moi, je me suis porté volontaire pour rester. Alors, à la fin de mon mandat, j'ai demandé à rester pour accompagner ceux qui arrivaient, les nouveaux, du 3e régiment d'infanterie de marine, d'autres marsouins que nous. Et voilà. Et parce que, moi, je trouvais cette mission, c'est de loin la mission, j'ose pas dire la plus intéressante, la plus passionnante, mais quand même la plus forte, en tout cas, que j'ai connue dans ma carrière.
On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Florent Marché, l'éclaircie ou l'incendie, où on parlera de l'assaut sur le pont des Verbania.
Garde-moi quand tu cours à ta perte, garde-moi quand ton cœur est inerte et tes rues déserte. Garde-moi quand plus rien n'est sublime devant les éclats de vitrine et le bleu marine. L'éclaircie ou l'incendie, je ne te reconnais pas. Pourquoi tu fais ça? Garde-moi quand le monde nous dégoûte, quand il fait ses sorties de route, ses voyages en soute. Garde-moi quand tu n'as que tes poings, plus personne pour tendre la main, plus que des ronds-points. L'éclaircie ou l'incendie, je ne te reconnais pas. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on n'est vraiment plus chez soi?
France Inter. Affaires sensibles.
Michel Goya, vous le militaire, quel est votre regard sur l'épisode que nous avons raconté, la prise du pont de Verbania par les casques bleus français ?
Bah, écoutez, alors ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Le pire dans une mission pour un militaire, c'est de subir les choses, de subir les coups, sans pouvoir faire quelque chose, d'être complètement impuissant, d'être ligoté. Alors moi, j'ai pas eu ce sentiment, hein, parce qu'on faisait effectivement plein de choses. On s'est battu. Alors c'était pas le même niveau de violence que l'attaque du pont de Verbania, mais on n'a pas subi. Mais avec cette attaque, c'est l'ensemble des forces, au moins des forces françaises, qui montraient que voilà, on a décidé de ne plus subir. Donc voilà, c'était un combat pour l'honneur. Accessoirement, c'était le combat le plus violent, le plus grand volume qu'on ait connu. Enfin, il y a eu d'autres combats. Hein. Il y a eu des combats aussi depuis le combat à Mogadiscio, en réalité, où il y a eu des combats en juin 1993. Donc personne n'a jamais entendu parler, mais les Français se sont battus.
On s'en souvient avec les Américains et les Faucons Noirs, oui. Mais pas les Français, effectivement.
Exactement, qui étaient au même endroit, qui ont fait la même opération quelques mois plus tôt, mais qui eux ont réussi au passage.
Oh, c'était violent aussi. Hein.
Ah, c'était très violent. C'était très violent, mais ces épisodes étaient rares malgré tout. Hein. Donc on était dans un contexte général où la France, président de la République, François Mitterrand, d'un mot, refusait d'engager, à part l'exception de la guerre du Golfe, que des soldats français combattent. Et donc c'était la source d'un certain nombre d'épisodes très frustrants, comme le Beyrouth, comme d'une autre manière l'engagement au Rwanda, etc. Et puis la Fort Pronue. Alors, vous l'avez évoqué, en réalité, les choses vont basculer à l'été. À l'été, où là, effectivement, on rentre véritablement en guerre contre les bosno-serbes. On décide de faire la guerre. Voilà. Jusque-là, on ne veut pas faire la guerre.
Sous l'égide du général Morillon, notamment.
Non, il était bien avant. Lui, il était en 1992. Mais Morillon a fait, il s'est débattu dans ce qui est le contexte d'impuissance dans lequel nous plaçaient les Nations Unies.
Oui, il a beaucoup exprimé, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, mais il a fait de grandes choses. Mais on fait la guerre, en fait, à l'été. C'est le vrai tournant, c'est le massacre de Srebrenica, et là, on dit, c'est plus possible, donc on fait la guerre. Et ce qui est important de voir, c'est qu'en deux semaines, le problème est résolu.
Comme quoi on aurait pu le faire avant.
Exactement.
C'est-à-dire que
si dès le début on a essayé de faire la guerre, on aurait évité des souffrances épouvantables.
Puisque vous êtes historien également, cette guerre en ex-Yougoslavie, elle était frappante parce que c'était depuis longtemps le premier conflit sur le sol européen, dans l'espace européen. Et on a l'impression qu'aujourd'hui c'est un conflit lointain, si lointain qu'il est peut-être même un peu oublié.
Oui, bien sûr. Alors c'est un peu le propre de presque tous les engagements militaires que l'on fait. Alors que il y a plus de 20 000 Français qui ont été engagés en Bosnie. C'est un engagement majeur. Vous avez 55 qui sont tombés de 92 à 1995, d'autres après dans les émissions suivantes, mais pas au combat. C'est autant que en 10 ans de présence au Sahel, par exemple, en 10 ans de combat au Sahel, pour 3 ans en Bosnie. À l'époque, on n'écrivait pas, les Français, les soldats français n'écrivaient pas, on n'en faisait pas beaucoup, et puis voilà, puis on passe à autre chose, et puis très rapidement, on multipliait les missions à ce moment-là, très rapidement, on va s'engager sur autre chose, on va partir sur l'Afghanistan, et puis après on va partir au Sahel, etc. Un événement, une opération chasse l'autre, mais dans les mémoires ça reste.
Bien sûr. On va finir sur une note plus anecdotique, une scène que vous avez racontée, comment des casques bleus égyptiens s'étaient vus livrer des planches à voile en pleine guerre. C'est quoi cette histoire?
Alors, pour pas en comprendre, le 1995, voilà, c'est la dernière année où on constituera des bataillons français, où à nu on dira, voilà, cette expérience, c'est terminé. On fera d'autres choses, mais cette expérience, c'est terminé. Mais il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de nations qui sont volontaires pour fournir des bataillons aux Nations Unies, parce que c'est globalement un peu une vache à lait, quoi, les Nations Unies. Vous fournissez, les Nations Unies payent les soldes, payent tous les équipements, et donc c'est du pain béni pour des nations qui envoient leurs soldats comme ça, qui en retire beaucoup de bénéfices sans faire grand-chose. Et il se trouvait à ce moment-là qu'il y avait en Bosnie deux bataillons égyptiens, un qui était sur l'Adriatique, sur le bord de l'Adriatique, et un à Sarajevo. Et un jour, on voit arriver dans un conteneur à Sarajevo des planches à voile qui étaient destinées au bataillon égyptien. Alors il y avait eu erreur sur le bataillon. Au lieu de partir vers l'Adriatique, il était parti sur Sarajevo. Alors tout ça évidemment financé par les Nations Unies.
Très bien, merci infiniment. Michel Goya. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la prise du pont de Verbania, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.